Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore ce matin. Amen.
Amen.
Avant de commencer, nous allons acclamer celui qui nous a renouvelé le ce matin, le Père Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen.
Amen.
J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Dieu nous a fait grâce de voir ce jour qui est le jour dimanche. Le jour où nous célébrons notre Dieu. Amen.
Amen.
Avant que les gens se connectent, nous allons commencer par une louange qui va vous réveiller. Amen.
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 Nouvelle année, nouvelle face, on attend pas Jésus. Le soleil se lève sur une année nouvelle. Je laisse derrière ce qui me faisait mal.
Dieu m'a gardé,
Dieu m'a relevé. Aujourd'hui je danse, je peux avancer. Même dans la nuit, il était là. Sa main fidèle, tu m'as pas lâché. Si je suis debout, si je souris,
Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus-Christ Nazareth? Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que Jésus a fait du bien à quelqu'un ce matin?
Amen.
Donc s'il t'a fait du bien, acclame-le encore avec des cris de joie. Amen, amen, amen. Alléluia.
Amen.
Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, à vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, tonton Alain, merci pour ta présence. Amen.
Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine dernière, nous avons vu la procréation. Le thème et le sous-thème, c'était la procréation dite verticale. Et ce matin, nous continuons parce que c'est un grand et long thème. Alléluia. Donc, le thème ce matin, c'est la procréation. Et le sous-thème, c'est la procréation dite verticale. Amen.
Amen.
Excellent Père de gloire, nous voulons encore te dire merci ce matin pour la force et le courage que tu nous renouvelles. Merci pour l'opportunité que tu me donnes encore, éternel Dieu de gloire, de parler de ta part. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, pour ta présence, pour tes bontés, pour tes bienfaits. Père éternel tout-puissant, que ton Saint-Esprit puisse localiser tes enfants et qu'ils viennent écouter ce message. Amen.
Amen.
Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles.
Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est la procréation et le sous-thème, la procréation dite verticale. Amen. Dimanche dernier, elle concernait la naissance du fils de la promesse. Donc, c'est Isaac qui était le fils de la promesse, conformément à la vision qu'a en Abraham dans Genèse 12, verset 7, que je vais lire. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia.
Amen.
Qui lui était apparu. Alléluia. Donc, Dieu apparut à Abraham en vision, pas face à face. Alléluia.
Amen.
Isaac est un type de Christ. Il est le point de départ de l'arrivée du Messie sur terre. À titre de rappel, dans la procréation dite verticale, Dieu est acteur actif et le couple acteur passif. Dieu révèle en esprit sa vision, sa pensée. Il appartient au couple d'obéir et de patienter et de se mettre en mode foi. Donc, la procréation dite verticale, ça veut dire que c'est Dieu qui dirige toutes les choses. Amen. Donc, s'il dit que c'est un garçon qui sera son serviteur, toi, le père ou la mère, tu ne pourras rien dire. Donc, on l'écoute, on obéit et on fait tout simplement ce qu'il dit de faire. Voilà pourquoi on dit ici que Abraham et Isaac étaient des acteurs passifs et Dieu acteur actif. Amen. Aujourd'hui, nous poursuivons notre thème, la procréation dite verticale. Cette fois, nous verrons les naissances d'Ésaü et de Jacob. La mission d'Isaac est d'enfanter la descendance de Jésus conformément à la révélation faite à Abraham par Dieu. Donc nous avons lu Genèse 12, 7 et là nous allons lire Galates chapitre 3 au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux descendances » ou « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule « et à ta postérité ». La postérité dont il est question ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de Christ. Il s'agissait d'une personne et cette personne, c'était Christ. Donc, c'était pas qu'il ne s'agissait pas des descendances, mais il s'agissait d'une descendance. Amen.
Amen.
Pour cela, il devra se marier. Attention, pas avec n'importe qui. Qui devrait se marier? Isaac. Alléluia. Isaac devait se marier. Alors, comment Isaac devait-il procéder pour avoir une femme ou encore sa côte? Alléluia. Soit selon son cœur, ses sentiments ou ses émotions. Soit selon la volonté de son père, conformément à la coutume. Abraham étant un traditionnel et un conservateur des us et coutumes des Hébreux, il va appliquer le processus du mariage révélé depuis l'origine de l'humanité dans Genèse 2, si quelqu'un peut lire Genèse 2, versets 21 à 23. Genèse 2, versets 21 à 23. Alléluia.
J'ai eu la parole de Dieu avec respect dans Genèse 2, du verset 21 au verset 23. Amen. Alors la parole, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Amen.
Amen. Et on peut lire Genèse 20, verset 12.
De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme.
Amen. Amen. Donc, il faut savoir que Sarah était la sœur, la demi-sœur d'Abraham. Ils étaient de même père, pas de même mère. Et Abraham, partout où il partait, il fallait que Sarah se présente comme sa sœur. Amen. Donc, quand on a lu le chapitre 2, verset 21-23, j'ai dit ici que lui-même est issu d'un tel mariage. Ça veut dire que Isaac était né d'un mariage, c'est-à-dire qu'il fallait fonctionner en mode foi. Abraham et Sarah devaient tout simplement obéir à Dieu. Amen. Donc, je continue. D'ailleurs, Noé, qui est son lointain ancêtre, l'a appliqué. Je ne sais pas si quelqu'un a la version, a le livre de Tobie. Non? Bon, je vais lire. Tobie, chapitre 4, verset 12. Voici ce que la parole de Dieu dit. Mon fils, garde-toi de toute union illégale. Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac. Amen. Donc, il ne devait pas se marier avec n'importe qui. Il fallait que la femme soit prise dans la famille. Amen. Parce qu'Abraham aussi, sa femme, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de la famille. Avant, on pouvait dire que c'était de l'inceste, mais bon, c'est depuis la Bible. Hein. Mon fils, garde-toi de toute union illégale. Et tout d'abord, prends femme dans la descendance de tes pères. Ne prends pas une étrangère, car nous sommes les fils des prophètes. De Noé, qui fut premier prophète d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères des origines. Souviens-toi, mon fils, ils ont tous pris femme dans le clan de leurs frères. Donc, Isaac ne pouvait pas prendre une femme ailleurs que dans sa famille. Ils ont été bénis dans leurs fils et leur descendance aura un héritage. Amen. Donc, le mariage selon les principes révélés par l'Esprit de Dieu dans Genèse 2, verset 21-23, trouve son application dans le mariage d'Isaac et Rebecca, où Abraham, qui est père et figure de Dieu, et Isaac est le fils obéissant. Donc, Isaac préfigurait Christ. Amen. C'était le fils de la promesse. Isaac trouvera sa côte selon la volonté de son père et non ses sentiments et ses émotions. Isaac ne pouvait pas raisonner, ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas façonner à sa manière. Il était obligé d'écouter ce que son père lui disait. Amen.
Amen.
Nous avons lu Genèse 2, versets 21 à 23. La Bible s'interprète elle-même dans son contexte culturel et historique. Donc, évitez de donner des interprétations. Ici, c'est un mariage de proximité, mariage de famille. Alléluia.
Amen.
Isaac, âgé de 40 ans, n'est pas encore marié. Certainement, il a des copines à gauche, à droite. Une situation qui inquiète peut-être Abraham qui réside à Canaan, qui est l'actuel Israël. Alors, il décide d'envoyer son serviteur le plus âgé, c'est-à-dire sagesse oblige. Alléluia. Abraham n'a pas envoyé n'importe qui pour aller chercher une femme à son fils. Alléluia.
Amen.
Il y a des parents, quand ton enfant atteint l'âge de 30 ans et qu'il n'est pas encore marié, on se pose des questions. Abraham devait certainement se dire que, mais lui, est-ce qu'il va se marier? Est-ce qu'il va faire des enfants? Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se marier, mais qui disent catégoriquement qu'ils ne veulent pas faire d'enfants. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de descendance et la population sera vieillissante.
Oui.
Alléluia, alors que Dieu nous a dit, multipliez-vous.
Oui.
Amen.
Oui.
Donc, il faudrait qu'on prie pour nos enfants qui ne veulent pas du tout faire des enfants. Bon, je continue ma lecture. Donc, le serviteur le plus âgé, sagesse oblige. Dans son clan à Ur, qui est l'actuel Irak, pour chercher une femme pour son fils Isaac, et ce conformément aux us et coutumes des peuples nomades du désert irakien. Genèse 24, versets 3 à 4. Genèse 24, versets 3 à 4. Amen. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils et ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc la mission était délicate. Le serviteur est conscient qu'il ne doit pas échouer, alors il s'adresse à Dieu pour l'assister et le diriger tout le long du voyage. Alléluia. Il va faire une prière précise à Dieu. Donc, pour réussir une mission, tu es obligé de demander à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il va te donner les indications. Tout ce qu'il va te donner sera droit, correct. Amen. Donc, c'était une mission assez importante. Il s'est dit, comment je veux faire? C'est vrai que j'ai eu la bénédiction de mon Seigneur. Maintenant, il faut que Dieu me dise exactement ce que je dois faire. Donc, il a fait une prière. Lui, d'abord, il a fait une prière exacte, une prière précise. Pour que Dieu puisse nous répondre, il faudrait que nos prières soient précises. Amen. Genèse 24, versets 12 à 14. Genèse 24, versets 12 à 14. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai la parole de Dieu avec respect. Amen. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon serviteur. Alléluia. Donc il a fait une demande précise. Amen.
Amen.
À la fin, Et Dieu lui répondra aussitôt. Donc, il a fait sa prière. C'est ce qu'on vient de lire dans Genèse 24, versets 12 à 14. Et Dieu va lui répondre dans Genèse 24, 15 à 21, si quelqu'un peut faire la lecture. Genèse 24, 15 à 21.
Il n'avait pas encore fini de lire la parole du Seigneur avec respect. Excusez-moi. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit la cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Je lis jusqu'où ?
21. Ah,
quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans la breuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non.
Amen. Donc, il a prié, il a fait une prière à Dieu, il a demandé ce qu'il voulait et Dieu a répondu. Alléluia. Dieu a exaucé sa prière de la manière qu'il avait demandé. Amen. À la fin, le serviteur donna la dot conformément à la volonté de son maître Abraham. Et Isaac se maria par procuration sans qu'il ne soit au courant. Alléluia. Donc, le verset de la dot se trouve dans Genèse 24, à partir du verset 53 au verset 54. Genèse 24, verset 53-54, je lis la parole de Dieu avec respect. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Verset 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la dot, elle existe depuis la Bible. Amen. Il est allé voir les parents de la fille sans pour autant savoir ce qui allait se passer. Et comme j'ai dit, il a adressé une prière à Dieu pour être guidé et Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que le mariage est une institution divine. Parce que le serviteur d'Abraham a fait une prière à Dieu et Dieu a répondu exactement. Il a répondu à sa prière. Tout ce qu'il avait demandé, Dieu avait exaucé. D'où l'on dit que le mariage est une institution divine. Donc, Isaac obéit à la volonté de son père et prit Rebecca, sa cousine consanguine, pour femme. Isaac n'a pas discuté. Donc, il a marché en mode foi. Ça veut dire que, bon, si c'est Dieu qui a décidé, non, mes sens ne se réveillent pas. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas, je ne raisonne pas. C'est comme ça que je vais suivre, tout simplement. Donc, Dieu, dans cette situation, il est l'acteur actif et le couple est acteur passif. Ils suivent tout simplement ce que Dieu fait. Amen.
Amen.
Donc, il prit Rebecca, sa cousine consanguine, pour femme. Genèse 2, versets 22 à 23. Ça, je vais lire dans la version français courant. Amen. Donc, Matthieu 2, versets 22-23, la parole de Dieu dit ceci. « Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. » Verset 23. « En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. » Ou la, on la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme, Ça veut dire que c'est un mariage de proximité. La femme d'Isaac n'a pas été prise ailleurs que dans sa famille. Parce que l'homme et la femme ont le même nombre de côtes. Donc, une paire de 12 côtes. Si l'homme en avait enlevé une côte, certainement, il boiterait. Mais donc, quand on dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme, ça veut dire que c'est un mariage de proximité. La femme n'a pas été cherchée, n'a pas été prise dans une autre famille ou le nom, mais c'est dans la famille. Alléluia. Donc, c'est un mariage de proximité. Amen. Le ha exprime l'étonnement. Qu'est-ce qu'il a dit ha? C'est Isaac qui a dit, enfin, j'ai trouvé une femme qui a l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, il a dit ha, il était étonné. Amen. Donc, le ha exprime l'étonnement. En effet, Isaac fut certainement étonné de voir que son père a décidé qu'il épouse une femme de son clan, de sa parenté. Mais c'était un enfant obéissant. Alors, il s'incline, il ne se justifie pas, ne régimbe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit quelque chose, à moins d'être un enfant est insensé, sachant bien que tout ce que Dieu fait est parfait. Quand Dieu te dit quelque chose, il te dirige toujours sur le droit chemin. Donc, qu'est-ce que Isaac a fait? Il a obéi tout simplement. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Exode 22, ceci, que honore ton père et ta mère. Tu honores ton père et ta mère comment? Dans des attitudes aussi. Ce n'est pas seulement dire je t'aime ou amener des présents, mais c'est aussi dans des attitudes. Alléluia.
Amen.
Amen. Donc, je vous envoie à la lecture de dans le livre de Genèse, chapitre 24, que vous allez lire après le culte. Là, vous verrez comment on parle du mariage. Et nous avons été inspirés par ce modèle de mariage qui se trouve dans Genèse 24. Amen. C'est dans ce modèle de mariage qu'il est dit que le mariage est une institution divine, comme je venais de vous le dire. Puisque Dieu a tout géré depuis le monde invisible, vous voyez, tout se passe toujours dans le monde spirituel. Et lorsque on dit toujours « Dieu m'a parlé », Dieu ne nous parle pas physiquement, il nous parle en esprit. Amen. Donc, puisque tout a été géré depuis le monde spirituel ou le monde invisible, et c'est à partir de ce mariage que se sont imprimés le principe de mariage selon Dieu dans beaucoup de cultures. Donc, on s'inspire du mariage de Genèse 24, et ça se fait dans beaucoup de pays. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie, ça peut être en Europe, mais de toute manière, le modèle du mariage traditionnel se trouve dans Genèse chapitre 24. Donc, en lisant Genèse 24 entièrement, vous allez découvrir que Dieu a guidé les pas du serviteur. Donc, on peut conclure sans se tromper que Dieu a validé cette union. Alléluia. Donc, Dieu a validé l'union de Isaac et Rebecca. Pourquoi? Parce que le serviteur d'Abraham n'a pas fait les choses de lui-même. Il a dit, mon chef, mon Seigneur m'a donné la bénédiction, mais je cherche aussi celle de Dieu et je cherche Dieu pour voir comment est-ce que je vais rencontrer cette femme qui est véritablement destinée au fils de mon Seigneur. Amen.
Amen.
Mais malheureusement, pendant 20 ans, Rebecca ne tombe pas enceinte. Une situation qui intrigue, une situation vraiment qui inquiète Isaac. Parce qu'il faut savoir que Rebecca était stérile. Mais il a fallu l'intervention de son mari pour qu'elle ait des enfants. Comment elle s'appelle? À Sarah aussi, elle était stérile. C'est comme si c'est quelque chose qui se répète. Alors, il va se souvenir qu'il est né après une stérilité de 40 ans, rappelant que ce n'est pas par les compétences physiques et sexuelles qu'il est né. Sarah, elle était ménopausée. En principe, la ménopause, c'est 50 ans. Elle a eu Isaac à quel âge? À 90 ans. Donc, elle a fait 40 ans d'attente avant de faire Isaac. Alléluia.
Amen.
Et donc, Isaac, il se souvient qu'il est né aussi après une stérilité de 40 ans. Amen. Alors il se souvient, je veux relire, qu'il est né après une stérilité de 40 ans, rappelant que ce n'est pas par les compétences physiques et sexuelles qu'il est né, mais par la foi, la patience et l'endurance. Donc quand tu as 40 ans de stérilité comme ça, les médecins te disent que tu ne peux plus faire d'enfant. Maintenant, Dieu intervient. Alléluia. Donc, ce n'est pas de physique, ça dépend du surnaturel. Et Dieu avait déjà dit que malgré ces années de stérilité, il y aura un enfant qui va sortir de là. Amen. C'est pourquoi il s'est connecté à Dieu en priant, le suppliant de lui donner un enfant, que nous allons lire dans Genèse 25, verset 21. Il est écrit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. 25-21. L'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Voilà, il a prié. Donc, il n'y a pas que les femmes qui prient pour leur mari. Les hommes aussi doivent prier pour leur femme. En général, les gens disent quoi? Oh, ma femme va prier, ma femme va prier. Mais dans ce cas comme ça, pour attirer aussi l'attention de Dieu, il fallait qu'il y ait une action pour que Dieu puisse agir. Et qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac a prié. Et Dieu a répondu à sa prière. Amen. Donc, le Seigneur écouta ses prières et Rebecca devint enceinte. Mais au lieu de lui répondre personnellement, Dieu se révéla à sa femme Rebecca et lui dit en esprit des détails sur sa grossesse. Amen. Des détails sur sa grossesse. C'est normal puisque c'est elle qui porte l'enfant et qui ressent toutes les émotions. Genèse 25, versets 21 à 23. Genèse 25, versets 21 à 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Genèse 25, versets 21 à 23. La parole de Dieu dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Amen. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Alléluia. Donc, Rebecca ne comprenait pas pourquoi les enfants se battaient dans le ventre. Mais Dieu ne pouvait pas parler à Isaac parce qu'Isaac ne sait pas ce qui se passe dans le ventre. Et pourquoi les enfants se battent dans le ventre? Donc Dieu s'est adressé directement à Rebecca parce que c'est elle qui ressentait toutes ces douleurs. Amen. Et Dieu dit qu'il y a deux nations dans son ventre. On vient de le lire dans Genèse 25, verset 23. Si quelqu'un veut encore refaire la lecture, Genèse chapitre 25, verset 23.
Je lis la parole du Seigneur avec respect. Le premier sortit entièrement au roux comme un manteau de poil.
Non, c'est pas ça.
Tu m'as dit 25.
23.
Ah,
chapitre 25, verset 23.
Ah, ok. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Amen. C'est pas formidable ça? Il n'y a que Dieu qui peut savoir que dans ton ventre là, il y a deux enfants, mais ces deux enfants, ce sera deux peuples différents. Amen. En général, c'est le plus petit qui est assujetti au plus grand. Mais là, parce que c'est Dieu qui fait les choses, ben, le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Et on le comprendra plus loin. C'est vraiment formidable ce que Dieu dit. Alléluia.
Amen.
Donc, Dieu montre combien de fois sa puissance précède la science, puisqu'elle va nous révéler des milliers d'années avant qu'il y a deux types de jumeaux. Alléluia. Donc, la science vient après l'esprit. Tout est d'abord fait dans le surnaturel. Donc, les deux types de jumeaux. Les jumeaux semblables, c'est le cas d'Ésaü et Jacob, qui ont chacun leur placenta. C'est pourquoi l'Écriture déclare qu'ils se donnaient des coups dans le ventre. Amen. Ils n'étaient pas dans le même placenta. Alléluia. Donc, Genèse 25, verset 22. Genèse 25, verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Amen. J'ai la parole de Dieu avec respect. Les enfants se heurtaient dans son sein. Amen. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia. Donc, les enfants étaient en train de se battre dans le ventre. Pourquoi Dieu me fait ça? Alléluia. Et ils étaient différents à la naissance. L'un était roux, couvert de poils comme un manteau, et l'autre peut-être était noir, parce que la Bible ne nous dit pas ça. Donc, je vais lire Genèse 25, verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Amen. Donc, les jumeaux identiques qui partagent le même placenta se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ésaü et Jacob étaient dans deux placentas différents. Donc, ils étaient semblables. Maintenant, ceux qui sont identiques sont dans le même placenta. Alléluia. Amen. Donc, comme ils sont dedans, ils ne peuvent pas se disputer. Ils ne peuvent pas se disputer dans le ventre. Ils sont collés. Donc, ils ne peuvent pas se donner des coups. Dieu a créé la différence car il y a un jeu. Il y a un enjeu devant. C'est quoi l'enjeu qui est devant? C'est la descendance de Jésus. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit toujours de Jésus. Amen. Donc Isaac est la préfiguration de Jésus. L'autre détail de la grossesse nous donne la trajectoire du deuxième. Il sera le chef du premier-né. C'est déjà scellé dans le ciel. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, quel que soit ce que nous voulons faire, c'est déjà scellé dans le ciel. Dieu va faire comme il a convenu de faire. Amen. Il s'agira maintenant d'harmoniser la révélation de Dieu à la réalité terrestre. Sans échographie, la parole de Dieu s'est avérée exacte. L'accouchement, car ce sont effectivement des jumeaux, n'est-ce pas? C'est pas merveilleux? On n'avait pas encore l'échographie, mais Dieu avait décidé que ce sera deux jumeaux. Et quand Rebecca a accouché, effectivement, c'était des jumeaux. Amen. Donc, quand je dis, tout est fait dans le spirituel. Amen. Amen. Ils ne sont pas identiques, mais semblables. Pourquoi ils ne sont pas identiques? Parce qu'ils n'étaient pas dans le même placenta. Mais le deuxième confirme sa détermination à supplanter le premier. On va le lire dans Genèse 25, verset 26. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Donc Jacob tenait le talon de son frère. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc Isaac, qui est le père d'Ésaü et Jacob, il avait 60 ans quand ses enfants naquirent. Alléluia. C'est pourquoi Isaac lui donna le nom de Jacob. Donc Jacob, ça dit quoi? Tricheur, hein? Menteur. Donc, qui signifie tricheur? Celui qui supplante pour les personnes à viser, elles ont déjà une idée de la personnalité de Jacob, un tricheur, un rusé, alors qu'Ésaü présente le signe d'une personne naïve au tempérament chaud. C'est à 60 ans qu'Isaac a eu ses jumeaux. Après cela, ils n'ont plus eu d'enfants. Donc, Isaac et Rebecca n'ont eu que Jacob et Ésaü. Ésaü et Jacob étaient préparés d'avance. Dans le monde spirituel, chacun était formaté selon les missions bien précises. Ces deux-là avaient des missions précises. Alléluia. Dieu avait donné à chacun sa mission. C'est de Jacob qu'est né les 12 tribus d'Israël. Amen. Mais problème. C'est quoi le problème? Il faut maintenant ajuster la révélation avec les réalités terrestres. Pour que chacun rentre dans sa destinée, Isaac aimait naturellement Ésaü parce que c'est l'aîné. Donc, Isaac fonctionnait en mode sens. L'aîné, c'était Ésaü, donc c'était son fils, c'est lui qui l'aimait. Mais Dieu avait déjà un autre plan. Amen. Donc, comment elle s'appelle? Rebecca marchait selon les directives de Dieu. Mais Isaac marchait selon ses propres directives à lui. Donc, lui, c'était ses sens, son intelligence, ses émotions. Lui, il marchait avec ses émotions. Rebecca aimait spirituellement Jacob parce qu'elle avait reçu la révélation que l'aîné servira le second. C'est elle qui avait reçu ça, que l'aîné sera assujetti au second. Donc, elle marchait selon les directives de Dieu, pas selon ses propres émotions, comme faisait son mari Isaac. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Là, tu as dit l'aîné.
L'aîné sera assujetti au plus petit. C'est ce que Dieu a décidé. D'accord? Comment ajuster la révélation divine avec les réalités terrestres? Où Isaac est prêt à donner la bénédiction du premier-né à Ésaü. Ésaü, c'était le premier-né. Donc, Isaac était prêt à lui donner la bénédiction parce que c'est l'aîné. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Ok. Ce qui est contraire au message de Dieu, telle est l'équation que devront résoudre Rebecca et Jacob. En grandissant, la personnalité de chacun s'affiche progressivement. Ésaü est excellent chasseur, donc un conquérant au tempérament chaud. Par contre, Jacob, calme observateur au tempérament doux, mais rusé. Alléluia. Il est doux, mais il est rusé. Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alléluia. Ce sont des informations importantes puisque Jacob a bien observé son grand frère et a trouvé qu'il est un peu naïf et aime les femmes et les ambiances. Donc, Jacob a remarqué que son frère aimait les femmes, aimait les ambiances. Donc, il va user de ruse pour avoir les droits des fils aînés. Amen. Genèse 25, versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Mais en méprisant le droit d'aînesse, il a fâché Dieu. Tu es l'aîné de la famille. À cause de la faim, tu vends ton droit d'aînesse. Déjà que Jacob aspirait à ça. Donc, il a bien calculé son fait. Hein. Il aime les femmes, il aime les ambiances. Là, il vient, il l'a fait. Il veut que je lui donne à manger. Mais il faut qu'il me donne son droit d'aînesse. Et comme il avait tellement faim, il lui a dit que à quoi ça me sert d'avoir tout ça. Donne-moi et puis voilà. Je sais que je vais mourir. Il a méprisé le droit d'aînesse. Alléluia. Donc, les aînés des familles, faites attention. Ne vous laissez pas berner par vos petits frères, vos petites sœurs. Alléluia.
Amen.
Voilà. Donc, ce sont des informations importantes puisque Jacob a bien observé son grand frère et a trouvé qu'il est un peu naïf et aime les femmes et les ambiances. Donc, il va user de ruse pour avoir les droits des fils aînés. En cédant naïvement ses droits à Jacob, dans le monde spirituel, Jacob est devenu l'aîné et Ésaü le cadet. Donc, on parle ici de choses spirituelles. Il a vendu son droit de naissance, il n'est plus l'aîné. C'est maintenant Jacob qui est l'aîné. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit quoi? L'aîné sera assujetti au plus petit. Maintenant, il s'agit de passer à la deuxième étape, qui est la bénédiction du premier-né. C'est là que Rebecca rentre en jeu. Amen.
Amen.
La bénédiction ne doit pas revenir à Ésaü. C'est ce que Dieu a dit à Rebecca en esprit. Mais comment faire pour changer les choses? Comment faire pour que Isaac, le père, ne se rende pas compte qu'il y a eu un changement? Parce que lui, il veut bénir l'aîné. Il veut donner à l'aîné sa bénédiction. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et donc, Rebecca, d'après ce qu'elle a entendu, va rentrer en jeu pour mettre le plan en application. Amen.
Amen.
Consciente que son mari Isaac ne voit plus du tout, elle va profiter de cette cécité pour substituer Ésaü à Jacob. Genèse 27, verset 1 à 16. Genèse 27, verset 1 à 16. Voici ce que la parole de Dieu dit. J'ai la parole de Dieu avec respect. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un de mes mets, un mets comme j'aime. » Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Donc, il a demandé à son fils de lui faire le plat qu'il aime pour lui donner la bénédiction. Mais Rebecca doit empêcher ça. Amen. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Donc, il a fait ce que son père lui a demandé. Mais Rebecca était à la porte pour écouter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen.
Amen.
La bénédiction des aînés n'était pas pour Jacob. Mais Rebecca devait faire quelque chose parce qu'elle avait reçu un signe de Dieu. Amen. Peut-être, voilà. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Amen. Les gens auraient pu dire que, mais quelle est cette mère-là qui pousse son enfant à la malédiction? Mais elle a agi comme ça parce qu'elle avait reçu des instructions du Seigneur. Donc, il fallait qu'elle soit attentive non seulement à la voix de Dieu et appliquer ce que le Seigneur lui dit de faire. Amen.
Amen.
Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü et son fils aîné et les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et les pains qu'elle avait préparés. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose que le monde ne peut pas comprendre, il va te donner toutes les stratégies. Rebecca elle-même, est-ce qu'elle aurait pensé faire ce qu'elle a fait là? Bon, elle a pris le linge de son fils aîné, mais est-ce qu'elle aurait pensé qu'il faut prendre la peau du chameau pour mettre sur son bras? Parce que Ésaü était velu. Donc, puisque c'était le plan de Dieu, Dieu lui avait donné toutes les possibilités, toutes les caractéristiques, c'est-à-dire que tout ce qu'il fallait faire pour aboutir à la promesse qu'il avait faite pour Jacob. Amen.
Amen.
Le verset 18. J'ai eu dit quoi? Ok. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Elle le plaça dans la main de Jacob, son fils, et le met et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Eh quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Là, il ment. Alléluia. Isaac, bien qu'il soit vieux, c'est quand même que les parents reconnaissent quand même leurs enfants. Mais lorsque Dieu t'envoie faire quelque chose, ne doute point. C'est-à-dire que prends ton courage. Il ne faut pas que le doute soit avec toi. Parce que si le doute est déjà avec toi, tu risques de faire échouer le plan de Dieu.
Ouais.
Amen. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Alléluia. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Amen. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues. Comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alléluia.
Amen.
Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Maudit quiconque te maudira et béni quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, Jacob avait reçu la bénédiction de son père,
ouais.
Alors que ce n'était pas lui qui devait le recevoir. Mais tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Donc, plus personne ne pouvait toucher Jacob, parce qu'il avait la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu nous dit ici, maudit quiconque te maudira et béni quiconque te bénira. Alléluia. Donc, pour rentrer pleinement dans sa destinée, Jacob devait d'abord changer sa véritable nature animale. Donc, tricheur pour revenir une nature corruptible. C'est le passage de la chenille au papillon. Donc, le papillon, avant d'être papillon, c'est d'abord une chenille. Et il y a un temps pour être papillon. Alléluia.
Amen.
Pour cela, il s'est battu avec un ange de Dieu. Il gagna le combat et est devenu Israël. Donc, Genèse 32, versets 23 à 33. Genèse 32, versets 23 à 33. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisa pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes que tu as été vainqueur. » Alléluia. Donc Jacob, pour rentrer dans sa destinée, devait changer de comportement, de mentalité. Et là, il a combattu avec les anges, avec Dieu. C'est là qu'il a changé le nom. Il n'est plus Jacob, il est devenu Israël. Mmh. Alléluia. Mmh. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboutture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon, parole du Seigneur. Alléluia.
Amen.
Ensuite, il devait résoudre un contentieux spirituel. Rappelez-vous qu'il avait supplanté la bénédiction du premier-né, son frère jumeau. Son frère jumeau n'a jamais digéré cela et il ne l'a jamais pardonné. Alléluia. Cette humiliation. Sa haine et sa rancune pour son frère jumeau sont restées intactes dans son esprit pendant 20 ans. Donc, il est resté fâché pendant 20 ans. Tant que tu n'as pas pardonné à celui qui t'a fait du mal, dans ton cœur, il y a la rancune, il y a la haine, et ça te pousse à te venger.
Ouais.
Donc, pour Ésaü, il doit tuer son frère pour récupérer sa couronne. Mais c'est trop tard. Tu as attendu 20 ans. Mm-hmm. Et la manière dont Jacob a agi, ce n'était pas de lui. C'était le plan de Dieu. Mais Ésaü ne le comprenait pas. Amen.
Amen.
Donc, pour Ésaü, il doit tuer son frère pour récupérer sa couronne. Nous le verrons dans Genèse 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît.
Je lis la parole de Dieu avec respect.
Amen.
Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on
mènera le deuil sur mon père va approcher. Et je tuerai mon frère Jacob.
Vous voyez, là, il a agi comme Caïn et Abel. La jalousie, la haine a poussé Caïn à tuer Abel. Et c'est ce que Ésaü voulait reproduire avec Jacob. Mais seulement les choses vont se passer autrement. Amen. Alors, il s'est constitué une armée forte pour en finir avec Jacob. Ignorant que ce dernier a maintenant une nouvelle carapace. Donc, Jacob n'est plus seul. Jacob, c'est Israël. Donc, il a la protection de Dieu. Et il n'agit plus, il n'agit plus avec ses sens. Alléluia. Il agit maintenant en mode de foi parce qu'il a changé de comportement. Celui qui s'attaque à Israël s'attaque directement à Dieu. Alléluia. Donc, il s'appelle maintenant Israël. Donc, si tu attaques Israël, ça veut dire que tu attaques Dieu. Mais Jacob a refusé l'affrontement avec son frère. Il s'est plutôt humilié avec ses épouses devant son frère aîné. Rappelons-nous que l'humilité précède la gloire. Donc, Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Après avoir fléchi les genoux devant son frère, les deux se sont réconciliés. Ils ont préféré, alléluia, ils ont préféré la paix que la guerre et ensuite ont fumé le calumet de la paix par une offrande de Jacob. Alléluia, tout un symbole. Genèse 33, verset 1 à 17. Genèse 33, verset 1 à 17. Ici, le calumet de la paix, c'est une pipe à long tuyau que les Indiens de l'Amérique du Nord fumaient pendant des discussions importantes, alléluia, pour se réconcilier, pour faire la paix. Donc, j'ai dit que nous allons lire Genèse 33, verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. Genèse 33, verset 1 à 17. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 4400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à son rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Alléluia. Je crois que le fait que Jacob ait changé de nom qui s'appelle Israël, donc si tu attaques Israël, tu attaques Dieu, ça anéantit la haine d'Ésaü. Parce que quand il est venu, c'était avec l'intention de tuer son frère. Mais Jacob a su comment faire. Il s'est prosterné devant Ésaü. Alléluia. Alors que devant, on nous disait que le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais là, comme il fallait qu'il y ait réconciliation, il s'est humilié. La parole de Dieu dit quoi? L'humilité précède la gloire. Donc, de cette humiliation, après viendra la gloire. Alléluia.
Amen.
Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Vous voyez comment il parle, hein? À ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tous ceux camps que j'ai rencontrés ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. » Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Amen.
Amen.
et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » J'ai dit, Genèse 33, verset 1 à 17. Je suis au verset 13. « Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Et si l'on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Vous voyez que tout le long, Jacob s'est humilié devant son frère. Parce que lui, il voulait la paix, il ne voulait pas la guerre. Donc, il s'est humilié et il appelait son frère « Mon Seigneur ». L'humilité précède la gloire. Alléluia.
Amen.
Jésus rappelle donc 14, Jean 14, 27, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Alléluia. Donc, Jésus veut la paix. Donnez-vous la paix. Et dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Un des fruits de l'esprit est la paix. Amen. Amen. Donc, sans paix, on ne peut rien construire. Si tu veux la paix, tu es obligé de t'humilier. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Jacob devant son frère. Dans cette rencontre qui a failli tourner au drame et remettre en cause le processus qui mène à Christ, nous trouverons l'oracle qui est la repentance, l'amour, le pardon, qui est le message du ministère des enfants perdus. Que nous révélera cette procréation dite verticale? La personnalité et les missions de chaque enfant vont se dévoiler et impacteront le monde. Ésaü fonctionne en mode sens avec une intelligence émotionnelle forte. Son ADN est marqué du sceau de la violence, la haine, la jalousie et le meurtre. Sa lignée produira Amam qui cherchera à exterminer les Juifs de Suse. On parle d'Amam dans le livre d'Esther. C'est lui qui a voulu exterminer le peuple de Dieu et Esther est venue intervenir. Donc Amam, vous voyez qu'il avait cette rage d'exterminer ce peuple. Mais Dieu avait suscité quelqu'un pour pouvoir venir sauver le peuple d'Israël, c'était Esther. Donc je vous invite à lire le livre d'Esther. Ensuite, son ADN va impacter Hérode le Grand, dont il est l'arrière et arrière-petit-fils. Ce dernier cherche à éliminer Jésus en massacrant tous les nouveaux-nés de 0 à 2 ans. Matthieu 2, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Vous voyez, la haine excite à la vengeance. Ésaü, comment il s'appelle? Caïn a tué son frère par jalousie. Ésaü voulait tuer son frère Jacob par jalousie. N'eût été l'intervention de Dieu, le plan de Dieu ne se serait pas accompli dans l'humanité. Alléluia. Donc Dieu intervient toujours au moment où les gens pensent que tout est fini. Parce que Dieu n'agit pas comme les hommes et tout se fait dans le monde spirituel. Alléluia.
Amen.
Jacob, devenu Israël, fonctionnera en mode de foi et produira les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il est avec Dieu, parce qu'il est conduit par Dieu, il ne marche pas selon ses émotions, mais il marche selon la foi. Alléluia. Il marche par la foi. Par contre, Ésaü, ce n'était pas le cas. Amen.
Amen.
Donc, les 12 tribus d'Israël, dont Judas, l'héritier dont la descendance préparera l'arrivée de Jésus selon une parole prophétique de Jacob dans Genèse, verset chapitre 49, excusez-moi, verset 8 à 12. Donc, on fait beaucoup de lectures parce que tout est écrit dans la Bible. On ne peut pas se passer de la lecture de la Bible parce que je peux dire mes écrits, mais qu'est-ce qui prouve que ce que je dis est écrit dans la Bible? Alléluia. Donc, verset chapitre 49, verset 8 à 12, voici ce que la parole de Dieu dit. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, donc le Messie Jésus, et que les peuples lui obéissent. Ils attachent à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Mm-hmm. Le roi David est descendant de cette lignée, la lignée, c'est-à-dire que les gens de Judas. Amen.
Amen.
Le combat d'Ésaü et de Jacob est représenté entre Hérode le Grand, descendant d'Ésaü, et Jésus, descendant de Jacob. C'est pourquoi il est dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. C'est le père de la foi, Abraham. Isaac, fils obéissant à l'image de Christ, et Jacob, la manifestation du Saint-Esprit. J'ai déjà lu ce verset, Exode 22, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, lorsque tu obéis à Dieu, tu marches selon ses commandements, il te bénira, il te donnera même le pays, il te fera, il te bénira, il te mettra les bénédictions à l'abondance, même dans un pays étranger, parce que tu as obéi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance te ferme les portes, la désobéissance bloque la main de Dieu sur ta vie. Lorsque tu es un enfant obéissant, les portes te sont ouvertes. Même dans un pays étranger, tu seras béni en abondance. Pourquoi? Parce que tu es dirigé par lui et tu ne te poses pas les questions. Tu marches avec Dieu en mode foi. Parce qu'avec Dieu, il ne faut pas attendre de voir pour croire.
Mm-hmm.
Alléluia. Il faut marcher en mode foi. Amen.
Amen.
Donc, en conclusion, à travers la procréation dite verticale, d'Ésaü et Jacob, Dieu veut nous présenter les deux lignées qui existent sur la terre. La lignée du mal avec Ésaü, qui est à l'image de Caïn. Alléluia. Genèse 4, verset 8. Amen. Genèse 4, verset 8. Voici ce que la parole de Dieu dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, c'est la lignée du mal. Donc, Caïn voulait tuer Abel. Ésaü voulait tuer Jacob. Et Hérode voulait tuer. Hérode le Grand voulait tuer Jésus. Alléluia. Parce qu'il s'est dit, il est le seul roi. Pourquoi y aurait-il un autre roi? N'ayant pas pu tuer Jésus, il a tué tous les petits de 0 à 2 ans. Amen. Donc, la lignée du bien avec Jacob qui est à l'image d'Abel remplacée par cette Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 30 ans, de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Alléluia. Donc ça, c'est la lignée du bien. Amen. Ces deux lignées sont représentées encore dans Galates 5, versets 19 à 21. Alléluia. Nous arrivons à la fin de notre culte. Donc, lorsque tu marches selon la chair, tu fais des choses mauvaises. Parce que tu n'es pas guidé par Dieu. Tout ce que tu fais ne confesse pas le nom de Dieu. Donc, dans Galates 5, versets 19 à 21, dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Par contre, Galates 5, 22, ce sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons, lorsque nous sommes conduits par Dieu, tout ce que nous faisons plaît à Dieu. Nous ne faisons pas de notre propre force, nous marchons en mode foi. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu, il est amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Lorsque tu sais te maîtriser, tu ne peux pas faire du mal. Tu te remets à Dieu. Alléluia. Donc, tu n'agis pas selon toi parce que en agissant de toi-même, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Et donc, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu te laisses guider par Dieu. Amen.
Amen.
La révélation est que nous produisions soit les enfants du mal qui manifesteront plus tard les fruits de la chair, ou les enfants du bien qui produiront des fruits de l'esprit. Amen.
Amen.
Donc, Jésus ouvre une brèche à ceux qui fonctionnent selon la chair, les sens, les émotions, leur intelligence, afin qu'ils quittent les ténèbres et l'obscurité. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Si tu es fatigué de faire le mal, ou on crie tout le temps sur toi, tout ce que tu fais, c'est-à-dire que tu énerves les gens, tu ne confesses pas le nom de Dieu, si tu es fatigué de cette vie-là, Dieu te dit, viens à moi, je vais te donner du repos. Et c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme les cœurs. Ce ne sont pas les hommes. Alléluia. Et il faut que ça vienne déjà de toi-même. Parce que Dieu ne nous a pas imposé, il n'a pas dit, je vous invite à venir. Non, il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas fatigué d'être dans cet état, tu ne vas pas chercher Dieu. Mais il nous le rappelle quand même. Alléluia. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'humilité précède la gloire. Si nous voulons réussir dans notre vie,
il faudrait que nous soyons les enfants obéissants. Même si on t'a fait quelque chose, moi tu te dis, Dieu sait, Dieu voit. Donc si je me venge, il saura pourquoi je me venge. Dieu ne nous demande pas de nous venger. Amen. Dieu veut que nous laissions tout entre ses mains. Et lui, il nous donne la paix. Parce que si tu ne remets pas ta vie entre les mains de Dieu, si tu ne remets pas tes situations difficiles entre les mains de Dieu, tu n'auras pas de paix. Parce que dans ta tête, tu vas te dire, mais pourquoi? Mais comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais, et pourquoi je ne veux pas me venger? Il m'a fait du mal, donc il faut qu'il sache ce que ça fait de faire du mal à l'autre. Donc tu vas... Et Dieu sait que toutes ces choses nous fatiguent. Ce sont des combats inutiles que nous faisons dans nos têtes. Et là, on rejoue le cœur de qui? Eh bien, le cœur de Satan. Il est content, il est joyeux parce que ben, il se dit, mais vous vous dites enfant de Dieu, vous n'obéissez pas à votre Dieu, vous êtes là en train de dire, mais pourquoi, mais comment et tout. Donc, il est content. Amen.
Amen.
Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il nous aime. Dieu est amour, donc il veut que nous soyons amour, que nous proclamons l'amour, nous prenons l'amour, nous soyons des enfants amour. Amen. Amen. À cela, on reconnaît ça que nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia.
Amen.
Voilà. Et quand Dieu est acteur dans quelque chose, quelles que soient nos oppositions, la chose va s'accomplir. C'est ce qu'il a décidé et c'est ce qui va se passer. Amen.
Amen.
Ésaü était le fils aîné. Il devait avoir la bénédiction des aînés, mais il ne l'a pas eu parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. C'était Jacob qui devait amener les 12 tribus d'Israël. Et donc, Rebecca a été vraiment... Vous voyez, les mamans, elles jouent un rôle important dans la vie des enfants. Elles peuvent changer ce que le père dit. Amen. Parce que elle a cette capacité. Même si elle doit se faire passer pour la voleuse, la menteuse, mais si elle veut que son fils l'a réussi, il va réussir. Amen. Jacob avait peut-être dit, mais il saura que c'est moi. Et je risque de ne pas avoir la bénédiction, j'aurai plutôt la malédiction. Elle a dit quoi? Que cette malédiction retombe sur moi. Mais comme je dis, tout s'est fait dans le monde spirituel. Elle savait pourquoi elle le faisait et ce plan devait réussir. Donc, lorsque Dieu te parle, sois attentif à ce que Dieu te dit. Parce que si tu n'es pas attentif, tu rates quelque chose. C'est-à-dire que le plan que Dieu avait imaginé pour toi, ce qui devait s'accomplir dans ta vie, ne va plus s'accomplir. Parce que tu n'as pas été attentif, ou bien tu as été attentif, mais tu doutes, tu te dis que non, Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu ne peut pas me parler ainsi, c'est faux. Mais tu fais rater le plan de Dieu.
Ouais.
Et ce plan sera donné à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, eh bien ça ne va pas, ce plan ne va pas réussir. Il va réussir, il va se passer par quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu n'as pas été attentif. Et puis tu as eu le doute. Tu as vu ta petite personne, tu es la personne qui est ridiculisée de tout le monde. Tu t'es dit, si j'ai dit aux gens que Dieu m'a dit ça, est-ce qu'ils vont me croire? C'est pour ça, tout ce que Dieu te dit, tu n'es pas obligé de le propager.
Ouais.
Amen.
Amen.
Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin de ne pas te sous-estimer. Parce que la manière dont Dieu te voit, la manière dont les hommes te voient, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Amen. Qui suis-je pour être là devant vous? N'eût été Dieu, la main de Dieu sur ma vie, et je ne parlerai pas de sa parole. Je glorifie le nom de Dieu pour ce qu'il a fait de moi. Alléluia. Donc, si on t'a toujours sous-estimé, comme fut mon cas, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que tu es une personne importante pour Dieu et qu'il a des choses extraordinaires qu'il va réaliser avec toi. Amen.
Amen.
Donc, j'aimerais parler ici à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est vrai que nous prêchons, mais il faudrait aussi qu'on dise aux gens que Dieu est important. Avoir Dieu dans sa vie, c'est très, très important. Tu ne peux pas marcher sans avoir accepté Jésus dans ta vie. Amen.
Amen.
Donc, je vais faire une prière pour ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Père Céleste, j'admets que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu as envoyé ton fils Jésus mourir sur la croix pour enlever mon péché, ma honte et ma culpabilité. Je crois que Jésus est ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur la terre et une relation avec toi. Aujourd'hui, je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je me détourne de mon péché pour renaître. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide et le ciel est maintenant mon foyer. Père, je te dis merci. Amen.
Amen.
Je salue toutes les personnes qui se sont connectées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais dire ceci, et je le dirai tout le long de cette année, que l'obéissance soit notre partage pour pouvoir avancer et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Soyons des enfants obéissants, marchons selon la foi. Vous savez, cette vie n'est pas facile. Mais si nous nous laissons emporter, Dieu ne pourra jamais agir dans nos vies. Alors, soyez tout simplement, ou du moins, soyons tout simplement obéissants. Ne marchons pas selon les dires des hommes, selon les regards des hommes, sinon nous ratons beaucoup de choses, alors que Dieu a besoin de nous et il veut faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires comme nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie, du ministère des enfants perdus. Excellente journée et que l'amour soit votre partage. Amen.
Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ?